Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Voix au chapitre. Evelyne Jobin.
Bonjour, bienvenue dans Voix au chapitre. Je vous propose aujourd'hui la suite de mon adaptation du roman de Marguerite Duras, L'Amant. Que je vous dise aussi ce que c'était, comment c'était. Voilà. Il vole les boys pour aller fumer l'opium. Il vole notre mère. Il fouille les armoires. Il vole. Il joue. Mon père avait acheté une maison dans l'entre-deux-mers avant de mourir. C'était notre seul bien. Il joue. Ma mère la vend pour payer les dettes. Ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Jeune, il essaie de me vendre à des clients de la coupole. C'est pour lui que ma mère veut vivre encore, pour qu'il mange encore, qu'il dorme au chaud, qu'il entende encore appeler son nom. Et la propriété qu'elle lui a achetée près d'Amboise, 10 ans d'économie, en une nuit hypothéquée, elle paye les intérêts. Et tout le produit de la coupe des bois que je vous ai dit, en une nuit. Il a volé ma mère mourante. C'était quelqu'un qui fouillait les armoires, qui avait du flair, qui savait bien chercher, découvrir les bonnes piles de draps, les cachettes. Il a volé les alliances, ces choses-là, beaucoup, les bijoux. La nourriture. Il a volé d'eau, les boys, mon petit frère, moi, beaucoup. Il leur a vendu, elle, sa mère. Quand elle meurt, il fait venir le notaire tout de suite, dans l'émotion de la mort. Il s'est profité de l'émotion de la mort. Le notaire dit que le testament n'est pas valable, qu'elle a trop avantagé son fils aîné à mes dépens. La différence est énorme, risible. Il faut qu'en toute connaissance de cause, je l'accepte ou je le refuse. Je certifie que je l'accepte. Je signe. Je l'ai accepté. Mon frère, les yeux baissés, merci. Il pleure. Dans l'émotion de la mort de notre mère, il est sincère. À la libération de Paris, poursuivi sans doute pour fait de collaboration dans le Midi, il ne sait plus où aller. Il vient chez moi. Je n'ai jamais très bien su, il fuit un danger, peut-être a-t-il donné des gens, des juifs, tout est possible. Il est très doux, affectueux, comme toujours après ses assassinats ou lorsqu'il lui faut vos services. Mon mari est déporté, il compatit. Il reste 3 jours. J'ai oublié, quand je sors, je ne ferme rien, il fouille. Je garde pour le retour de mon mari le sucre et le riz de mes tickets. Il fouille et prend. Il fouille encore une petite armoire dans ma chambre. Il trouve. Il prend la totalité de mes économies, 50 000 francs. Il ne laisse pas un seul billet. Il quitte l'appartement avec les vols. Quand je le reverrai, je ne lui en parlerai pas. La honte est si grande pour lui, je ne le pourrai pas. Après le faux testament, le faux château Louis XIV est vendu pour une bouchée de pain. La vente a été truquée, comme le testament. Après la mort de ma mère, il est seul. Il n'a pas d'amis. Il n'a jamais eu d'amis. Il a eu quelquefois des femmes qu'il faisait travailler à Montparnasse, quelquefois des femmes qu'il ne faisait pas travailler, au début tout au moins, quelquefois des hommes, mais qui eux le payaient. Il vivait dans une grande solitude. Celle-ci s'est accrue avec la vieillesse. C'était seulement un voyou. Ses causes étaient minces. Il a fait peur autour de lui. Pas au-delà. Avec nous, il a perdu son véritable empire. Ce n'était pas un gangster, c'était un voyou de famille, un fouilleur d'armoires, un assassin sans armes. Il ne se compromettait pas. Les voyous vivaient ainsi qu'ils vivaient, sans solidarité, sans grandeur, dans la peur. Il avait peur. Après la mort de ma mère, il mène une existence étrange, à Tours. Il ne connaît que les garçons de café pour les tuyaux des courses et la clientèle veineuse des pokers d'arrière-salle. Il commence à leur ressembler, Il boit beaucoup. Il attrape les yeux injectés, la bouche torve. À Tours, il n'a plus rien. Les deux propriétés liquidées, plus rien. Pendant un an, il habite un garde-meuble loué par ma mère. Il dort pendant un an dans un fauteuil. On veut bien le laisser entrer. Rester là un an. Et puis, il est mis dehors. Pendant un an, il a dû espérer racheter sa propriété hypothéquée. Il a joué un à un les meubles de ma mère au garde-meuble, les bouddhas de bronze, les cuivres, et puis les lits, et puis les armoires, et puis les draps. Et puis un jour, il n'a plus rien eu, ça leur arrive. Un jour, il a le costume qu'il a sur le dos, plus rien d'autre, plus un drap, plus un couvert. Il est seul. En un an, personne ne lui a ouvert sa porte. Il écrit à un cousin de Paris. Il aura une chambre de service à Malesherbes. Et à plus de 50 ans, il aura son premier emploi, le premier salaire de sa vie. Il est planton dans une compagnie d'assurance maritime. Ça a duré, je crois, 15 ans. Il est allé à l'hôpital, il n'y est pas mort, il est mort dans sa chambre. Ma mère n'a jamais parlé de cet enfant, elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais parlé du fouilleur d'armoire à personne. Il en a été de cette maternité comme d'un délit, elle la tenait cachée. Devait la croire inintelligible, incommunicable à quiconque ne connaissait pas son fils comme elle le connaissait, par devant Dieu et seulement devant lui. Elle en disait de petites banalités, toujours les mêmes, que s'il avait voulu, ça aurait été lui le plus intelligent des trois, le plus artiste, le plus fin, et aussi celui qui avait le plus aimé sa mère, lui qui, en définitive, l'avait le mieux comprise. « Je ne savais pas, disait-elle, qu'on pouvait attendre ça d'un garçon, une telle intuition, une tendresse si profonde. » Nous nous sommes revus une fois. Il m'a parlé du petit frère mort. Il a dit « Quelle horreur, cette mort, c'est abominable. Notre petit frère, notre petit Polo. » Reste cette image de notre parenté, c'est un repas à Sadek. Nous mangeons tous les trois à la table de la salle à manger. Ils ont 17, 18 ans. Ma mère n'est pas avec nous. Il nous regarde manger, le petit frère et moi. Et puis il pose sa fourchette. Il ne regarde plus que mon petit frère. Très longuement, il le regarde. Et puis il lui dit tout à coup, très calmement, quelque chose de terrible. La phrase est sur la nourriture. Il lui dit qu'il doit faire attention, qu'il ne doit pas manger autant. Le petit frère ne répond rien. Il continue. Il rappelle que les gros morceaux de viande, c'est pour lui, qu'il ne doit pas l'oublier. « Sans ça, » dit-il. Je demande, « Pourquoi pour toi ?» Il dit, « Parce que c'est comme ça. » Je dis, « Je voudrais que tu meures. » Je ne peux plus manger, le petit frère non plus. Il attend que le petit frère ose dire un mot, un seul mot. Ses poings fermés sont déjà prêts au-dessus de la table pour lui broyer la figure. Le petit frère ne dit rien, il est très pâle, entre ses cils le début des pleurs. Quand il meurt, c'est un jour morne, je crois de printemps, d'avril. On me téléphone, rien, on ne dit rien d'autre. Il a été trouvé mort, par terre, dans sa chambre. La mort était en avance sur la fin de son histoire. De son vivant, c'était déjà fait, c'était trop tard pour qu'il meure, c'était fait depuis la mort du petit frère. Les mots subjuguants, tout est consommé. Elle a demandé que celui-là soit enterré avec elle. Je ne sais plus à quel endroit, dans quel cimetière, je sais que c'est dans la Loire. Ils sont tous les deux dans la tombe, eux deux seulement, c'est juste. L'image est d'une intolérable splendeur. Le crépuscule tombait à la même heure toute l'année, il était très court, presque brutal. À la saison des pluies, pendant des semaines, on ne voyait pas le ciel. Il était pris dans un brouillard uniforme que même la lumière de la lune ne traversait pas. En saison sèche, par contre, le ciel était nu, découvert dans sa totalité, cru. Même les nuits sans lune étaient illuminées. Et les ombres étaient pareillement dessinées sur les sols, les eaux, les routes, les murs. Je me souviens mal des jours. L'éclairement solaire ternissait les couleurs, écrasait. Des nuits, je me souviens. Le bleu était plus loin que le ciel, il était derrière toutes les épaisseurs, il recouvrait le fond du monde. Le ciel, pour moi, c'était cette traînée de pure brillance qui traverse le bleu, cette fusion froide au-delà de toute couleur. Quelquefois, c'était à Vinlong, quand ma mère était triste, elle faisait atteler le tilbury et on allait dans la campagne voir la nuit de la saison sèche. J'ai eu cette chance pour ces nuits, cette mer. La lumière tombait du ciel dans des cataractes de pure transparence, dans des trombes de silence et d'immobilité. L'air était bleu, on le prenait dans la main. Bleu. Le ciel était cette palpitation continue de la brillance de la lumière. La nuit éclairait tout, toute la campagne, de chaque rive du fleuve jusqu'aux limites de la vue. Chaque nuit était particulière. Chacune pouvait être appelée le temps de sa durée. Le son des nuits était celui des chiens de la campagne. Ils hurlaient au mystère, se répondraient de village en village jusqu'à la consommation totale de l'espace et du temps de la nuit. Dans les allées de la cour, les ombres des pommiers cannelier sont d'encre noire. Le jardin est tout entier figé dans une immobilité de marbre. La maison de même, monumentale, funèbre. Et mon petit frère qui marchait auprès de moi et qui maintenant regarde avec insistance vers le portail ouvert sur l'avenue déserte. Une fois, il n'est pas là devant le lycée. Le chauffeur est seul dans l'auto noir. Il me dit que le père est malade, que le jeune maître est reparti pour Sadek, que lui, le chauffeur, a reçu l'ordre de rester à Saïgon pour m'amener au lycée, me reconduire à la pension. Le jeune maître est revenu au bout de quelques jours. De nouveau, il a été à l'arrière de l'auto noir, le visage détourné pour ne pas voir les regards, toujours dans la peur. Nous nous sommes embrassés sans un mot, embrassés là, nous avons oublié, devant le lycée, embrassés. Dans le baiser, il pleurait. Le père allait vivre encore. Son dernier espoir s'en allait. Il le lui avait demandé. Il l'avait supplié de le laisser me garder encore avec lui contre son corps. Il lui avait dit qu'il devait le comprendre, qu'il devait lui-même avoir vécu au moins une fois une passion comme celle-ci au cours de sa longue vie, que c'était impossible qu'il en ait été autrement. Il l'avait prié de lui permettre de vivre à son tour une fois une passion pareille, cette folie-là, cet amour fou de la petite fille blanche. Il lui avait demandé de lui laisser le temps de l'aimer encore, avant de la renvoyer en France, de la lui laisser encore un an peut-être, parce que ce n'était pas possible pour lui de laisser déjà cet amour. Il était trop nouveau, encore trop fort, encore trop dans sa violence naissante, que c'était trop affreux encore de se séparer de son corps, d'autant, et le savait bien lui le père, que cela ne se reproduirait jamais plus. Le père lui avait répété qu'il préférait le voir mort. Nous nous sommes baignés ensemble avec l'eau fraîche des jarres, nous nous sommes embrassés, nous avons pleuré, ça a été encore à en mourir, mais cette fois déjà d'une inconsolable jouissance. Et puis je lui ai dit de ne rien regretter, je lui ai rappelé ce qu'il avait dit, que je partirais de partout, que je ne pouvais pas décider de ma conduite. Il a dit que même cela lui était égal désormais, que tout était dépassé. Alors je lui ai dit que j'étais de l'avis de son père, que je refusais de rester avec lui. Je n'ai pas donné de raison.
Thank you.
Voix au chapitre, Evelyne Jobin.
C'est une des longues avenues de Villelongue qui se termine sur le Mékong. C'est une avenue toujours déserte le soir. Ce soir-là, comme presque chaque soir, il y a une panne d'électricité. Tout commence par là. Dès que j'atteins l'avenue, que le portail est refermé derrière moi, survient la panne de lumière. Je cours. Je cours parce que j'ai peur de l'obscurité. Je cours de plus en plus vite. Et tout à coup, je crois entendre une autre course derrière moi. Et tout à coup, je suis sûre que derrière moi, quelqu'un court dans mon sillage. Tout en courant, je me retourne et je vois. C'est une très grande femme, très maigre. Maigre comme la mort. Et qui rit et qui court. Elle est pieds nus. Elle court après moi pour me rattraper. Je la reconnais. C'est la folle du poste. La folle de Villelongue. Pour la première fois, je l'entends. Elle parle la nuit. Le jour, elle dort. Et souvent là, dans cette avenue, devant le jardin. Elle court en criant dans une langue que je ne connais pas. La peur est telle que je ne peux pas appeler. Je crois avoir 8 ans. J'entends son rire hurlant et ses cris de joie. C'est sûr qu'elle doit s'amuser de moi. Le souvenir est celui d'une peur centrale. Dire que cette peur dépasse mon entendement, ma force, c'est peu dire. Ce que l'on peut avancer, c'est le souvenir de cette certitude de l'être tout entier, à savoir que si la femme me touche, même légèrement, de la main, je passerai à mon tour dans un état bien pire que celui de la mort, l'état de la folie. J'ai atteint le jardin des voisins, la maison, j'ai monté les marches, et je suis tombée dans l'entrée. Je suis plusieurs jours ensuite sans pouvoir raconter du tout ce qui m'est arrivé. Tard dans ma vie, je suis encore dans la peur de voir s'aggraver un état de ma mère. Je n'appelle pas encore cet état, ce qui la mettrait dans le cas d'être séparée de ses enfants. Je crois que ce sera à moi de savoir ce qu'il en sera le jour venu, pas à mes frères, parce que mes frères ne sauraient pas juger de cet état-là. C'était à quelques mois de notre séparation définitive, c'était à Saïgon, tard le soir. Nous étions sur la grande terrasse de la maison de la rue Testar. Il y avait d'eau. J'ai regardé ma mère, je l'ai mal reconnue. Et puis, dans une sorte d'effacement soudain, de chute, brutalement, je ne l'ai plus reconnue du tout. Il y a eu tout à coup, là, près de moi, une personne assise à la place de ma mère. Elle n'était pas ma mère, elle avait son aspect, mais jamais elle n'avait été ma mère. Elle avait un air légèrement hébété. Elle regardait vers le parc, un certain point du parc. Elle guettait, semble-t-il, l'imminence d'un événement dont je ne percevais rien. Il y avait en elle une jeunesse des traits, du regard, un bonheur qu'elle réprimait en raison d'une pudeur dont elle devait être coutumière. Elle était belle. Do était à côté d'elle. Do paraissait ne s'être aperçu de rien. L'épouvante ne tenait pas à ce que je dis d'elle, de ses traits, de son air de bonheur, de sa beauté. Elle venait de ce qu'elle était assise là même où était assise ma mère lorsque la substitution s'était produite. Que je savais que personne d'autre n'était là à sa place qu'elle-même, mais que justement cette identité, qui n'était remplaçable par aucune autre, avait disparu. Et que j'étais sans aucun moyen de faire qu'elle revienne, qu'elle commence à revenir. Rien ne se proposait plus pour habiter l'image. Je suis devenue folle en pleine raison, le temps de crier. J'ai crié, un cri faible, un appel à l'aide pour que craque cette glace dans laquelle se figeait mortellement toute la scène. Ma mère s'est retournée. J'ai peuplé toute la ville de cette mendiante de l'avenue. Toutes les mendiantes des villes, des rizières, celles des pistes qui bordaient le Siam, celles des rives du Mékong, je l'en ai peuplée, elle qui m'avait fait peur. Elle est venue de partout. Elle est toujours arrivée à Calcutta, d'où qu'elle soit venue. Elle a toujours dormi à l'ombre des pommiers cannelier de la cour de récréation. Toujours ma mère a été là près d'elle, à lui soigner son pied rongé par les vers pleins de mouches. À côté d'elle, la petite fille de l'histoire. Elle la porte depuis 2000 kilomètres. Elle n'en veut plus du tout. Elle la donne. Allez, prends. Plus d'enfants, pas d'enfants, tous morts ou jetés, ça fait une masse à la fin de la vie. Celle-ci qui dort sous les pommiers cannelier n'est pas encore morte. C'est celle qui vivra le plus longtemps. Elle mourra à l'intérieur de la maison, en robe de dentelle. Elle saura pleurer. Elle est sur les talus des rizières qui bordent la piste. Elle crie et elle rit à gorge déployée. Elle a un rire d'or à réveiller les morts, à réveiller quiconque écoute rire les enfants. Elle reste devant le bungalow des jours et des jours. Il y a des blancs dans le bungalow, elle se souvient. Ils donnent à manger aux mendiants. Puis, une fois, voilà, elle se réveille au petit jour et elle commence à marcher. Un jour, elle part. Allez voir pourquoi. Elle oblique vers la montagne, elle traverse la forêt et elle suit les sentiers qui courent le long des crêtes de la chaîne du Siam. À force de voir peut-être, de voir un ciel jaune et vert de l'autre côté de la plaine, elle traverse. Elle commence à descendre vers la mer, vers la fin. Elle dévale de sa grande marche maigre les pentes de la forêt. Elle traverse, traverse. Ce sont les forêts pestilentielles, les régions très chaudes. Il n'y a pas le vent salubre de la mer. Il y a le vacarme stagnant des moustiques, les enfants morts, la pluie chaque jour. Et puis voici les deltas. Ce sont les plus grands deltas de la Terre. Ils sont de vases noirs. Ils sont vers Chittagong. Elle a quitté les pistes, les forêts, les routes du thé, les soleils rouges. Elle parcourt devant elle l'ouverture des deltas. Elle prend la direction du tournoiement du monde, celle toujours lointaine, enveloppante de l'Est. Un jour, elle est face à la mer. Elle crie. Elle rit de son gloussement miraculeux d'oiseau. À cause du rire, elle trouve à Chittagong une jonque qui la traverse. Les pêcheurs veulent bien la prendre. Elle traverse en compagnie le golfe du Bengale. On commence ensuite à la voir près des décharges publiques dans les banlieues de Calcutta. Et puis on la perd. Et puis après, on la retrouve encore. Elle est derrière l'ambassade de France de cette même ville. Elle dort dans un parc, rassasiée d'une nourriture infinie. Elle est là pendant la nuit. Puis dans le Gange, au lever du jour. L'humeur rieuse et moqueuse toujours, elle ne part plus. Ici, elle mange, elle dort, c'est calme la nuit, elle reste là dans le parc de Laurier Rose. Un jour, je viens, je passe par là, j'ai 17 ans, c'est le quartier anglais, les parcs des ambassades, c'est la mousson, les tennis sont déserts, le long du Gange, les lépreux rient. Nous sommes en escale à Calcutta. Une panne du paquebot de ligne. Nous visitons la ville pour passer le temps. Nous repartons le lendemain soir. C'était L'amant de Marguerite Duras, publié aux éditions de Minuit. Lors de la pause musicale, nous avons écouté Ruby My Dear de Thelonious Monk. Cette émission a été produite par Frédéric Guillon. Je vous propose de me retrouver demain pour la suite de ce roman et je vous souhaite une bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.